Bonjour, aujourd'hui en collaboration avec le magazine Culture en ligne locaux, Le Fil du Fer sur Radio FM+, 91 FM, reçoit deux invités. L'un est professeur de médecine, c'est Gérald Schank. L'autre est artiste plasticien, photographe, scénographe, c'est Cédric Maté. Vous voici au micro du Fil du Fer pour la seconde fois, Cédric. Avec les bons mots-clés, Cédric, Maté, Fil, Fer, les auditeurs trouveront sur Internet l'émission du 24 septembre 2020 en podcast qui vous avait été dédiée. Vous y parliez de votre exposition Derrière les masques, qui montrait des visages parmi les équipes soignantes et administratives du CHU de Montpellier durant le premier confinement. Aujourd'hui, durant notre demi-heure, nous parlons en avant-première de l'exposition photographique que vous avez pensée tous les deux, Gérald Schank et Cédric. Elle a pour titre « L'humain en son jardin ». Cette exposition clôturera à partir du mois de juillet les festivités des 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier. Bonjour à vous, Gérald et Cédric.
Bonjour.
Bonjour Lionel.
Gérald Schank, comme c'est la première fois que votre voix se fera entendre dans le Fil du Fer, commençons par vous. Et je me tourne vers Cédric Maté pour lui poser cette double question. Qui est Gérald Schank et pourquoi cet homme est-il la personne avec laquelle vous avez voulu monter l'exposition photographique « L'humain en son jardin »
Super facile comme première question. Eh bien, Gérald Schank qui est professeur, mais bien plus que ça, sinon je n'aurais pas monté cette exposition avec lui. Il est passionné de patrimoine, il est passionné d'art, il est passionné en gros, c'est un rouleau compresseur, il est capable du pire comme du meilleur. Il a des très très bonnes idées, on s'entend très bien sur ça. Je pense que le but de Gérald, c'est vraiment de valoriser ce patrimoine qui nous est commun, un patrimoine à la fois matériel et immatériel, un savoir-faire, une pédagogie, qui sont complètement liés à ce conservatoire d'anatomie, à ce jardin des plantes, qui ne sont pas qu'un musée et qu'un jardin, mais qui représentent, je pense, à la fois pour le corps soignant, mais même pour les Montpelliérains et les Français en général, un patrimoine vraiment hors du commun, un outil de pédagogie. Voilà. Donc voilà qui est Gérald, en tout cas actuellement pour moi.
Très bien. Gérald, je me tourne vers vous cette fois-ci. Pourriez-vous expliciter le titre choisi pour l'exposition « L'humain en son jardin » ? Il a les caractéristiques d'une métaphore, non ?
Il résume la philosophie de cette école médicale montpelliéraine. Alors, c'est pas facile de parler philosophie lorsque les épreuves du bac ont été terminées, que l'année universitaire est terminée, que le confinement est terminé et que tout le monde aspire à faire la fête. Et pourtant, on va le faire grâce à Cédric, puisque Cédric était la personne clé pour transmettre un message magnifique, hein, sous forme ludique, il m'excusera ce terme-là, et artistique, en tout cas culturel, qui intéressera le plus grand nombre, parce qu'il va faire une exposition qui est magnifique. Et il est là pour porter ce message de l'école médicale montpelliéraine à travers les siècles, depuis le Moyen-Âge, voire l'Antiquité, puisqu'on remonte à Hippocrate pour le fondement de notre école, qui est l'ambition d'étudier l'humain dans sa globalité, incluant son milieu naturel, et d'étudier l'humain dans toutes ses dimensions, incluant aussi les arts. Donc rien de plus facile et de plus beau que de faire passer ce message à travers une exposition d'art qui va associer l'humain et le jardin.
Cédric, à quoi ressemblera cette exposition et pourquoi aura-t-elle une forte singularité ? Autrement dit, quel est votre parti pris esthétique ?
On en avait parlé tous les deux. C'est pas seulement un parti pris esthétique. C'est une façon de présenter les choses et c'est un regard. Ce serait le regard de l'artiste. Et c'est pas. Ça fait. Il me semble à un moment qu'on a lâché une recherche purement esthétique, en tout cas purement belle. Mais il s'agit de ça aussi me concernant, puisque pour moi c'est très important. La beauté est aussi une arme. On a décidé de faire des photos, de remettre en scène ces objets, en fait, de faire des natures mortes, ce qui n'est pas habituel pour moi, comme je suis portraitiste. Et en même temps, là, plus ça va, plus je me rends compte que je fais des portraits de ces objets. J'essaie de les comprendre, je peux leur parler, ça peut arriver. Et ces objets, on les mixe, quand c'est possible, avec le jardin des plantes. De toute façon, quand ça ne l'est pas, on a trouvé des solutions. Le but était d'amener ces objets. Ce que me disait tout dernièrement une collaboratrice, je vais y venir, puisque pour ce projet j'ai collaboré, c'est que ces objets ont l'air d'être enfermés, et que c'est dommage. Ils ont l'air d'être immobiles, alors que ce sont des objets très anciens, et qui ont été faits avec extrêmement de savoir-faire et qui ont une valeur hors du commun, pas seulement une valeur au sens propre du terme, mais ils sont vraiment précieux pour nous tous. Et là, derrière leur grille, derrière leur vitrine, derrière ce bâtiment très 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 sacré, c'était très chouette de les faire sortir et de les mettre dans un contexte différent, donc de les faire aller dans le jardin des plantes, et quand ce n'était pas possible, quand c'était trop compliqué, trop fragile, etc., de les traiter dans une pièce du conservatoire d'anatomie avec des éléments végétaux. Et ce qui nous permettait de mettre en scène et d'éclairer de manière assez folle ces éléments. Donc il y a la photo d'un côté, parce que la photo c'est facile, parce que quand on est dans le jardin des plantes, c'est agréable de déambuler devant des photos et quelques textes qui nous expliquent de quoi on parle. Mais aussi, je voulais que ce soit résolument contemporain, parce que la pédagogie, un muséum d'anatomie ou un jardin des plantes, c'est résolument contemporain. Ça fait partie de nos vies. Donc, créer des petits films qui parlent, faire parler ces objets, mettre ces films sur Internet, qu'on puisse les voir. Il me semble que ce confinement nous a fait souffrir, mais nous a aussi appris 2-3 trucs au niveau du numérique. Donc j'ai essayé de porter la création par là. Donc je suis associé à une vidéaste, artiste numérique, et un motion designer, Luc Parra et Jane Clays. Voilà.
En quoi cette exposition vous ressemble ? Quel est l'impératif intérieur qui vous a poussé à vous lancer dans ce montage, à la création de cette exposition ?
Bah, c'est Cédric Mattei, hein, c'est son talent. Cédric est arrivé très tôt dans le comité d'organisation des 800 ans, amené par une amie et membre du comité, qui est le professeur Valérie Rigaud, avec qui il avait déjà travaillé autour du projet des allégories de la ville de Montpellier. Et Valérie avait incarné la médecine, il avait déjà commencé à travailler, à réfléchir ce qu'était la médecine, le soin, la recherche, l'imagerie médicale. Et donc, on travaille avec Cédric autour des 800 ans et de la médecine depuis quelques années, presque 2 ans maintenant. Et Cédric a fait beaucoup pour la ville de Montpellier, et une exposition de photos à l'espace Bagouet, et puis ensuite pour Derrière les masques, où il m'avait contacté le printemps dernier en disant ben, les boulangers ils offrent des croissants aux soignants, et moi je sais faire des photos d'art, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc on avait travaillé avec le CHU de Montpellier, plusieurs soignants, plusieurs administratifs, plusieurs agents, puis finalement avec la ville de Montpellier pour délivrer un message qui était magnifique, un message d'apaisement qui, au moment où on reconfinait durement, ben, les soignants s'exposaient en ville et les agents, il n'y a pas que des soignants, sans masque. Avec un dénominateur commun qui est que derrière les grilles de l'hôpital, derrière les masques, il y a des humains comme les gens qui sont confinés, et que ce n'est pas les médecins ou les agents du CHU qui ont inventé le Covid pour s'enrichir. Ce sont des humains comme les gens qui sont empêchés, confinés, comme les malades, et ce sont des anges gardiens qui flottent un peu dans les rues de Montpellier. Et on a continué à travailler alors qu'on était branchés sur le Covid, à finir les 800 ans et... Et cette exposition, elle est créée maintenant, à la fin des 800 ans, pour répondre à un objectif qui est de finir de manière la plus festive et grand public possible les 800 ans, qui va de pair avec la fin de ce confinement, en tout cas de ce dernier confinement. On verra s'il y en aura un autre après, on ne l'espère pas, mais il faut souffler, et il faut finir de souffler les bougies. Et cette exposition, elle est faite pour commencer avec 2 autres événements. Le Festival des architectures vives, que les Montpelliéraines et Montpelliérains affectionnent particulièrement. Et pour sa 15e édition, le festival rentrera dans la cour d'honneur de la faculté en apportant un petit bout du jardin des plantes. J'en dis pas plus, mais c'est le jardin qui rentre dans la faculté. Et l'expo, c'est la faculté qui sort dans le jardin, la boucle est bouclée. Et au même moment, les étudiants vont offrir une collection d'art contemporain au nouveau campus Arnaud-Villeneuve, dans le nord de la ville. Et ils vont offrir une collection de 13 artistes contemporains, 18 œuvres d'art, qu'ils ont mis 2 ans à réaliser, et qui est en cours de finition, puisqu'il y a une sculpture monumentale qui vient d'être coulée cette semaine. Il y a du street art qui vient d'être fini cette semaine également, et on va accrocher les tableaux la semaine prochaine. On va finir en beauté autour de l'art, autour de l'humain. avec ce message vraiment qu'on porte, et moi je le porte aussi en tant que réanimateur, ça sert à rien de sauver des vies, de maintenir en vie des gens artificiellement avec des respirateurs, si c'est pour les endormir profondément, qu'il n'y ait plus de vie, de relation. On s'occupe des patients pour qu'ils aient une bonne qualité de vie, qu'ils puissent continuer à vivre. Et je trouve que c'était logique que les médecins, et moi je suis anesthésiste réanimateur, j'ai travaillé comme tous mes collègues pendant cette crise du Covid, c'était logique que nous, on rende hommage à l'art. Parce que si on se bat pour nos patients, c'est parce que la vie mérite d'être vécue. Et l'art en fait partie.
Donc, si je comprends bien, c'est le mot humain qui vous ressemble dans le nom donné à l'exposition.
Oui, parce que moi, je suis un humaniste. Mais l'humaniste, c'est pas quelqu'un qui vit dans le monde de oui-oui. C'est quelqu'un qui réfléchit d'où on vient pour savoir où on est et où on va. Et c'est quelqu'un qui est capable de prendre un sabre de chevalier Jedi pour défendre ses valeurs et mener un combat. Et effectivement, j'ai peut-être un côté rouleau compresseur, j'ai entendu le qualificatif, qui est bon, parce qu'il y a beaucoup d'énergie ces derniers jours pour finir cette exposition, et l'interview, elle est faite aujourd'hui, on l'aurait faite une semaine avant, c'était pas pareil, et je suis sûr qu'une semaine après, elle aurait été également différente. Mais on a besoin de rouleaux compresseurs pour fabriquer des autoroutes que peuvent prendre chacun. Et il a fallu un rouleau compresseur pour mener à bien ces 3 ans de travail autour des 800 ans, je veux bien accepter ce commentaire glorieux. Merci.
Et vous, Cédric, est-ce que c'est le jardin qui vous ressemble ?
Non. Oui et non. L'humain, là, pour le coup, le propos est humaniste parce que je pense qu'on a... Quoi qu'on fasse, même si on travaille sur des objets, le grand enjeu de cette exposition, c'est à la fois qu'elle soit vue, comprise, qu'elle puisse faire grandir les gens, en effet. Mais c'est exactement comme ces objets que je prends en photo. C'est-à-dire que leur nature est vraiment en premier pédagogique. Aussi, c'est la trace de certaines époques, de certaines volontés, de certaines façons de représenter l'humain. Et l'humain, par l'humain, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je trouve ça passionnant. La vision est différente. Et je pense qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire que ça, pour revenir sur notre dernier entretien, c'est vraiment essentiel. Le point commun aussi qu'on a tous les deux, c'est de faire de monter des projets qui sont atypiques, c'est-à-dire que, et c'est ce que j'aime bien aussi, et c'est parfois un peu plus compliqué que la normale, mais ça vaut le coup, c'est-à-dire de faire des projets qui ne sont pas en lien direct avec l'art contemporain, qui ne sont pas bordés comme des projets d'art ou d'art contemporain. Là, je vais parler à d'autres gens qui font d'autres choses, des conservateurs, des botanistes, et c'est tout l'intérêt, je trouve, aussi de mon travail d'artiste, tant au niveau de la production qu'au niveau de ce que ça raconte. Donc oui, le mot majeur de cette expo est l'humain. Bien sûr que le jardin, c'est important, c'est un symbole.
Est-il moral de montrer des corps, des organes qui ont été vivants ? Je pense alors là, à l'artiste Gunther von Hagens, qui n'hésite pas à exposer des restes humains plastifiés de prisonniers chinois, comme dans son exposition Bodies au début des années 2000.
Je vais commencer par répondre et je vais te laisser la parole aussi, parce qu'à mon avis, le point de vue du médecin est aussi intéressant que le mien. Il y a eu plusieurs débats autour de quel est le médium de l'artiste, et y a-t-il une éthique autour de ce médium-là ? Évidemment que oui, évidemment qu'il faut sourcer quand on utilise de l'humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité un crâne comme on a traité une représentation en cire ou en papier mâché. C'est évident. On a beaucoup plus de respect, il ne me parle pas de la même façon, même si ce sont des objets inanimés, il s'agit d'un corps, donc je ne vais pas le traiter de la même façon. Il est hors de question de ridiculiser, d'humilier, ou de... C'est important d'y penser. Et de la même façon que les gens ne regardent pas, évidemment, un crâne qui soit mis comme un ready-made au milieu d'une pièce ou pris en photo comme on regarde un objet représenté. Mais je pense que l'important dans un travail artistique vient de l'intention. C'est-à-dire que ce qui est important réellement, c'est ce qu'on fait de cet objet, c'est ce qu'on fait de ce médium. Donc oui, la morale est là, mais la morale ne dépend pas seulement de l'objet du reste humain ou de l'objet, elle dépend aussi de ce qu'on en fait, de ce qu'on décide de raconter à travers, de le sublimer, de le mettre en valeur, de le faire parler. De la même façon que je peux faire parler un crâne, mais il faut que je fasse bien attention de ce que je lui fais dire, évidemment. Mais c'est vrai, lorsque je prends en photo des humains et lorsque je fais un portrait, je ne peux pas faire dire n'importe quoi à un visage. C'est vraiment primordial.
Et donc, votre point de vue, Gérald Schank?
C'est une question fondamentale. Vous savez qu'il y a un ancien étudiant et enseignant de la fac de médecine qui s'appelle François Rabelais. En 1532, il était au milieu de ses études et il a publié son premier tome des aventures de Pantagruel avec cette phrase qui est « Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Et le médecin, quoi qu'il fasse, doit s'interroger. Et on s'est interrogé. Sur cette exposition, on s'est interrogé. On s'est interrogé si ça ne serait pas mal perçu de prendre des restes humains et de les photographier dans le jardin et de jouer avec. Bien sûr qu'on s'est posé la question. D'autant plus qu'on parlait de l'artiste, entre guillemets, parce que j'ai pas d'opinion là-dessus. Je m'interroge encore sur ce qu'il a fait, puisque c'est proche des travaux de plastination qu'on a au Conservatoire d'anatomie. Mais nous, les travaux de plastination qu'on a, ce sont des travaux de recherche anatomique qui ont permis, par exemple, de débuter la chirurgie du foie dans les années 1950. Lui, il le fait autrement. Nous, ce sont des outils de recherche et de pédagogie. Et là, on prend ces outils-là et on les joue d'un point de vue artistique. Et bien sûr qu'on s'est posé la question. Alors d'abord, on a pris essentiellement des maquettes en cire et pas des restes humains pour le jardin. Et certaines pièces ont été réfléchies. Et pourquoi finalement on le fait ? On le fait pour magnifier ces pièces, magnifier les humains qu'il y a derrière, pour rappeler qu'on a un patrimoine que les Montpelliérains ne visitent plus, puisque le conservatoire est fermé depuis une dizaine d'années. Il faut le visiter en passant par l'office de tourisme. Ils font un effort considérable et merci à eux, mais c'est pas très facile. Pour tous les touristes qui viennent, les visiteurs, ils frappent à la porte, ils rentrent, ils regardent la cour d'honneur, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et c'est de rappeler que ce patrimoine-là, il est un peu en danger, il faut le réhabiliter, il y a des travaux en cours, et qu'il y a une urgence. Ce patrimoine-là, il faut mettre 10 fois plus d'efforts que le musée du Louvre. Pourquoi ? Parce qu'on a 5000 êtres humains qui ont laissé un élément à eux, dans ce conservatoire, et ça impose un respect qui est maximal. Et cette exposition-là, elle leur rend hommage. Et c'est pas un travail gore, et on pense en plus à ce qui s'est passé à Paris Descartes dans l'actualité, ça nous a fait énormément froid dans le dos. Moi, j'étais étudiant, j'ai disséqué à la faculté de médecine en 1991-1992. Il y avait un respect du corps manifeste, et on a encore travaillé avec le nouveau campus universitaire à Notre-Villeneuve, où maintenant c'est encore plus high-tech. Et bien entendu, on est très loin de ce jeu morbide. On est dans un jeu qui magnifie l'être humain.
Le fil du fer fait sa pause musicale avec votre choix, Gérald. C'est Lund Quartet, Love's Madness. Oh, je le prononce mal. Oh, tell me, my mind. Retour au fil du fer sur Radio FM+, 91 FM, en partenariat avec Loco. Gérald Schank et Cédric Maté discutent de la future exposition qu'ils ont pensée ensemble, L'humain en son jardin. Cédric, est-ce que vous pourriez dire au micro du fil du fer quels sont les objets que vous avez choisis, quels sont vos choix dans tout ce qui était présent dans le musée d'anatomie ?
En fait, ces choix dépendaient d'abord de notre volonté. En fait, quand on nous a présenté, on nous a fait visiter le musée et le jardin. Donc, on a eu des visites privées qui étaient très, très agréables pour pouvoir choisir les objets. Et donc, moi, j'ai eu d'abord un œil à la fois inspiré d'histoire de l'art, évidemment, puisqu'il s'agit de vanité. Hein. Quand on voit des crânes, quand on voit des choses comme ça, on pense évidemment à une peinture classique, à la Renaissance, etc. Et ensuite, une des qualités graphiques extrêmement fortes, quoi. C'est-à-dire que ces objets sont vraiment marquants, spectaculaires. Et d'ailleurs, c'est un piège. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont très beaux et qui ont peut-être moins de poids ou moins de capacité à être représenté par la photographie ou la vidéo numérique. Au-delà des choix esthétiques ou des choix d'inspiration, c'était intéressant parce que c'était vraiment un travail avec les conservateurs d'une part, qui pouvaient nous dire cette pièce est importante, soit parce qu'elle est iconique, soit parce qu'elle représente le conservatoire, soit même parce qu'elle a de la valeur au sein même de l'école de médecine, et aussi les conservateurs ou les jardiniers au jardin des plantes qui nous disent cette plante est vraiment une plante méditerranéenne, ou alors elle est arrivée au jardin dans ce contexte-là, ou alors comme l'arbre de Judée que moi j'aime énormément, c'est l'arbre le plus ancien du jardin des plantes. Là, forcément, il y a une forme d'émotion qui n'est plus une émotion esthétique, mais qui est une émotion que moi je trouve beaucoup plus forte, et qui est une émotion qui est liée à l'histoire, à quelque chose qui se passe devant nos yeux quand on voit la forme. À mon avis, c'est le sens même de l'art. Voilà comment ça s'est fait. Peut-être que toi, tu peux compléter un peu, Gérald.
Ben, vous savez que Richet de Belval,
Le fameux
Richet de Belval, qui a donné son nom, en tout cas, non, la famille a donné son nom à un hôtel célèbre qui va être encore plus célèbre ce week-end, puisqu'il est inauguré place de la Canourgue. Eh bien, Richet de Belval, Henri IV, lorsqu'il lui a accordé un fonds pour créer le premier jardin botanique officiel de France, il a aussi créé un fonds pour une chaire d'enseignement à la fac de médecine qui était une chaire de botanique couplée à une chaire d'anatomie. C'est-à-dire que Richet de Belval, l'été, il enseignait la botanique dans le jardin, et l'hiver, il enseignait l'anatomie. Et si on remonte 50 ans avant, à l'époque de Rondelet, c'était pareil, c'est le premier à avoir créé le premier théâtre d'anatomie officiel de France, à l'actuelle Panacée. Encore une fois, la médecine est intriquement liée avec les arts, puisque la Panacée, c'est la résidence d'artistes de la ville. C'est l'ancien Collège Royal de Médecine. Et il a créé le premier théâtre d'anatomie au sein même de la Panacée. Et à côté, un des premiers jardins botaniques pour l'enseignement des plantes médicinales pour les étudiants. Donc anatomie et botanique sont absolument intriquées dans l'enseignement. Et elles le sont dans cette exposition pareillement. Et c'est ça qu'on voulait dire. Plus simplement, grâce à une expo et un message très fort porté par le talentueux Cédric.
Ce qui est intéressant aussi, c'est les liens. Par exemple, j'ai deux exemples de liens qu'on a fait quand on a choisi les objets. C'est-à-dire qu'il y a un cœur en cire qui, je crois, date du 18e, qui est articulé et qui est particulièrement beau. Et c'est vraiment il a été utilisé pour d'autres expositions et ça pourrait être un peu le cœur du conservatoire, qu'on a lié avec l'arbre de Judée, justement, qui est l'arbre le plus ancien du jardin, qui est un arbre qui ressuscite puisqu'il meurt et que des petites plantes, petite pousse sur lui et il revient. Il est là depuis quand même 600 ans. On trouvait ça magnifique. De la même façon, on a un crâne éclaté qui décrit un peu la composition du crâne. Et avec, on met un cyprès, qui est quand même l'arbre méditerranéen à la fois très très noble et en même temps l'arbre du cimetière, quoi. Je pense qu'il y a des... Enfin, voilà, les choix se sont faits comme ça, à la fois de façon très triviale et en même temps de façon très savante. C'est passionnant comme... Et on a utilisé une Vénus anatomique moderne, qui est la Vénus de Gérald, c'est-à-dire la Vénus de Gérald, une femme en latex qui est utilisée par les étudiants pour réanimer. Et t'as eu chaud, hein.
Ça s'appelle la mannequin.
Et on l'a utilisée également. Oui, mais on m'a dit que c'était aussi une Vénus anatomique. Et on l'a utilisé dans un bassin où il y avait des papyrus qui sont le symbole de la connaissance et du savoir pour les Égyptiens et de l'abondance puisqu'ils sont dans le Nil. Donc tout ça, c'était, il y avait des hasards, des choses qui étaient pensées qui nous ont amenés vers d'autres. Enfin, le choix des objets était vraiment passionnant et je pense que ça vaut le coup aussi de les voir à la fois de manière complètement innocente et de relire les textes et les revoir. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, voilà, dans cette expo.
Pour les auditrices et auditeurs motivés par le désir de monter une exposition de l'envergure de l'humain dans son jardin, donc là on est rentré dans du technique, quels ont été vos interlocuteurs, vos démarches pour obtenir les accords et les financements? Comment pourrait présenter un tel projet à sa hiérarchie et au maire de Montpellier? Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, peut-être.
Alors merci pour cette question. Et je suis quand même assez content d'avoir réussi à obtenir l'autorisation. Parce que si on se projette au milieu des années 90, il y a un artiste célèbre pour son travail sur les vanités qui s'appelle Cathy Borland, qui est irlandaise, et qui avait demandé l'autorisation à photographier le conservatoire d'anatomie. Cela lui avait été refusé par la faculté de l'université. Et donc elle a fait des photos un peu volées, vous savez, comme dans les reportages où il y a la caméra dans le sac. Et ça a fait l'objet d'un travail qui a été exposé au FRAC Montpellier-Occitanie, qu'il possède encore. Et 20 ans après, nous, on a réussi à vaincre les autorisations et l'université, la faculté nous a fait confiance parce que Cédric est un artiste humaniste, parce que je pense être un enseignant humaniste et ce qu'on fait est réfléchi en essayant de faire le bien. Et malheureusement, on s'exposera sans doute à des critiques parce que la critique est facile. Tout est possible comme perception auprès du grand public et auprès du public spécialisé. Certains trouveront ça ridicule, trop facile, certains peut-être insultants même. On est capable de répondre aux critiques puisqu'on a fait ça avec un objectif qui était bienveillant, de magnifier ces pièces-là, de ne pas jouer avec.
Merci. Un mot, Cédric ?
Moi je trouve que au-delà de la difficulté de monter une expo comme ça, parce qu'encore une fois elle est pluridisciplinaire et que je pense qu'on n'est pas sur un territoire de pluridisciplinarité par expérience. En France c'est toujours très compliqué. Au-delà de ça, ça crée, mais comme pour les allégories où j'ai rencontré des gens de milieux complètement différents, ou pour Derrière les masques où je suis allé au devant du corps médical et du CHU de Montpellier, c'est quand même passionnant de monter ça, même si c'est très compliqué. Parce que on s'adresse à des logiques, à des façons de travailler totalement différentes. Et je pense, encore une fois, que l'expression artistique est là pour ça, vraiment uniquement pour ça. C'est-à-dire que, je le redis, l'artiste qui s'adresse aux artistes, ou aux collectionneurs. Moi, je vois pas trop l'intérêt. C'est un art qui se regarde et voilà.
Les objets que vous avez photographiés au Jardin des Plantes, Cédric Maté, sont issus donc du musée d'anatomie de la faculté de médecine. Cédric et Gérald, pourriez-vous dire ce qu'est ce musée et ce qu'il apporte, selon vous, à l'imaginaire, aux arts, à la science médicale ?
Alors, moi, je ne vais pas répondre totalement à la question parce que j'en suis pas capable, je pense. Mais je vais juste dire que ce musée fait partie de mon imaginaire parce que moi, quand j'étais étudiant ou enfant à Montpellier, le musée était libre d'accès. Que j'avais la chance d'être entouré de gens qui savaient qu'il était libre d'accès parce que c'était pas évident de pousser ses portes. De la même façon que c'est pas évident de pousser les portes de la fac de médecine de l'école de médecine parce qu'elle est impressionnante et tant mieux en même temps, c'est ce qui la protège. Et que j'ai des souvenirs de ce musée qui sont vraiment magiques. C'est comme quand on va à l'opéra ou que finalement c'est un peu le même genre d'institution, l'opéra, le théâtre. Et je suis tellement heureux d'y passer du temps, de rentrer dans ses coulisses, de me l'approprier. Il a une valeur à la fois pédagogique, à la fois patrimoniale, mais il a aussi une valeur qui joue sur l'imaginaire et sur l'humain encore une fois, quoi. Donc ça n'a pas de prix ce travail et j'espère que ça poussera les gens après la rénovation à retourner voir ces pièces qui sont exceptionnelles. J'espère que j'ai bien fait mon travail.
Alors quand Cédric était étudiant à Montpellier, moi j'étais étudiant à Montpellier, on était étudiants à Montpellier tous les deux à peu près au même moment et le musée on pouvait le visiter tous les après-midi. Moi, étudiant en médecine, ça m'a beaucoup servi. Pas apprendre l'anatomie parce que j'ai fait le travail qu'on m'a demandé en termes d'objectifs pédagogiques, mais je suis pas non plus un passionné de la moindre épiphyse qu'il faut décrire au niveau de l'ossature. Mais les chirurgiens le sont, bien entendu. Par contre, moi, j'allais régulièrement au musée. Il n'y a pas un mois où je n'allais pas au musée d'anatomie. Les études de médecine sont longues. Et quand on a un coup de blues en se posant des questions, aller dans ce conservatoire d'anatomie qui est décrit parfois comme le temple de la médecine, hein, 500 mètres carrés, des colonnes en faux marbre monumentales, des plafonds peints avec les allégories de la médecine, etc. On est imbibé par l'atmosphère. Et cette atmosphère, je la retrouve à chaque fois que je visite le musée. Je retourne 30 ans en arrière lorsque j'étais étudiant. Les étudiants aujourd'hui ne peuvent plus y aller puisque même pour eux, le musée est fermé. Et moi, ça me crève le cœur. Et notamment, j'ai discuté avec des étudiants de 6e année qui se sont installés dans le bâtiment pour réviser le concours de l'internat tout au long de leur 6e année. Ça fait 6 ans qu'ils sont dans cette faculté, n'avaient jamais visité le musée d'anatomie. Et à l'occasion de l'ouverture du musée pour la prise de photos, j'ai embêté Cédric avec des dizaines d'étudiants. Je leur ai fait visiter le musée. Vous ne pouvez pas passer 6 ans dans cette faculté. Vous êtes installé, vous avez mangé dans cette faculté pendant un an pour réviser l'internat et vous ne savez même pas qu'il y a un musée d'anatomie. C'est incroyable. Je me bats parce qu'il faut au grand public, mais aussi à la communauté universitaire. Donc, et on y trouve tellement de choses dans ce, pas que de l'anatomie, hein, ça a été conçu comme un cabinet de curiosité du 19e, hein, 1850. Il y a de tout, il y a de l'anatomie comparée, animale, il y a des fossiles, il y a des maladies, de l'anatomie pathologique, c'est une mine d'or, hein, il y a aussi des maladies qui ont été moulées, des maladies historiques qu'on ne voit plus aujourd'hui.
Eh bien, merci. C'était Le Fil du Fer. Merci aux invités, Gérald Schanck, Cédric Maté. Merci à Pascal Rullier, venu prêter main forte pour l'enregistrement de l'émission montée en collaboration avec le magazine Culture en ligne Locaux. À bientôt.
Merci, Lionel.
Au revoir.